sur cette planète majestueuse qu'est Saturne, à près d'1,3 milliard de kilomètres de la Terre, une sonde spatiale d'une valeur de 3 milliards de dollars se précipite vers sa destruction. Mais ce n'est pas un accident, c'est un sacrifice.
Et c'est un unique passage risqué entre Saturne et ses anneaux avec une flopée de publications qui sont aujourd'hui à la une de la science, Axel.
Oui Mathieu, c'est la fin contrôlée de la mission Cassini de la NASA dont on va parler. En septembre 2017, la sonde a plongé vers la planète pour s'y écraser après 13 ans de mission en orbite. Ce baroud d'honneur était l'occasion de mesures inédites pour les scientifiques sur les anneaux et sur les lunes de Saturne. Et aujourd'hui, 4 publications simultanées paraissent dans la revue Science sur ce grand final et nous allons en parler avec vous, Cécile Ferrari. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes planétologue à l'Institut de physique du Globe de Paris, professeur à l'Université de Paris, et vous travaillez toujours sur les données de cette mission Cassini. Alors, ce grand final, le passage entre les anneaux et la planète avant de s'écraser, quelles étaient les attentes scientifiques que nous avions ?
La grande attente, finalement, de cet épisode final, c'était de tenter de mesurer la masse des anneaux de Saturne par une méthode unique, exceptionnelle, qui était effectivement de voir l'influence gravitationnelle des anneaux sur la sonde spatiale quand elle traverse le plan des anneaux entre la planète et les anneaux. Et donc, elle est un peu sensible, finalement, à la masse des anneaux. Et en mesurant la perturbation...
On a pu les peser ?
On a pu les peser.
Comme si on était sur une balance.
Oui, oui. Voilà, donc on a une valeur maintenant qui est finalement assez proche des estimations qu'on avait grâce aux sondes voyageurs. Je vous parle il y a... Et donc finalement cette estimation est maintenant plus précise et donc les anneaux sont légers.
Oui, alors le chiffre c'est 10 puissance 19 kg, c'est précis mais c'est pas très parlant. Comment on peut se faire une idée de ce que ça représente par rapport à la planète ?
Alors évidemment c'est totalement ténu par rapport à la planète. Notre standard de mesure, c'est les petits satellites qui sont à côté. Donc, vous regarderez une image de Mimas sur Internet, vous verrez que ce petit satellite de 400 km fait tout petit par rapport à la masse, à l'étendue des anneaux de Saturne. Et pourtant, les anneaux de Saturne, en masse, sont à peu près équivalents à la moitié de ce petit satellite.
Ah oui, sa moitié en plus.
Oui, oui c'est sa moitié. Donc, les anneaux sont des objets très étendus. Ils font plus de 200 000 km de diamètre, en fait, mais ils sont extrêmement plats, ils font 2-3 mètres d'épaisseur, donc en fait, ça en fait des objets peu massifs.
Jusqu'à combien de kilomètres de la surface la sonde a continué à envoyer des données à la Terre ?
En fait, on l'a vu dans son agonie, en fait, puisque pendant le freinage dans l'atmosphère de Saturne, finalement, le faisceau radio était orienté vers la Terre. Mm-hmm. On l'a maintenu comme ça en direction, et donc on l'a vu brûler, en fait, et sa durée de vie a été plus longue de 30 secondes que les estimations qui étaient faites par les ingénieurs, en fait.
Mais en brûlant, on n'envoie plus de données, j'imagine.
Non, mais bon, à un moment donné, voilà, elle a.
Donc ils se sont trompés 30 secondes.
30 secondes sur le modèle d'ingénierie de perte de la sonde. Donc,
Est-ce que le passage proche comme ça des anneaux nous a permis de voir enfin ces grains de matière qui composent ces anneaux et dont on ne sait pas vraiment quelle taille ils font, à quoi ils ressemblent ? Est-ce qu'on les voit maintenant ?
Ça c'est la grande frustration. Hein. Tout chercheur, une fois qu'il a effectué une grande mission, se repose d'autres questions. Mais là, celle qui reste effectivement, c'est à quoi ressemble une particule des anneaux de Saturne ? Donc même avec la mission Cassini, pendant 13 ans, en essayant de se rapprocher au plus près, finalement, on a toujours un peu cette question. Donc on a atteint une résolution sur les anneaux de 3 km, ce qui est exceptionnel. Mais c'est pas suffisant pour voir des particules qui sont de la taille du centimètre à quelques mètres. Alors on a vu des petits trains de particules, ce qu'on appelle des RER chez nous. C'est-à-dire que elles sont dans certaines zones, elles sont assez sensibles à l'attraction mutuelle entre elles, et donc elles forment des petits trains. Donc ceux-là, on les a vus. Donc ils sont vraiment très intéressants au niveau dynamique pour comprendre comment localement tout ça se parle et évolue. Mais on n'a pas vu une particule des anneaux de Saturne. Donc on aimerait bien y retourner, évidemment, avec peut-être des objets volants plus à même de survoler les anneaux à très courte distance.
En fait. Est-ce qu'en les voyant vraiment en bonne résolution, on pourrait répondre à la question qui fait débat depuis toujours, qui est quand est-ce que les anneaux se sont formés ? Parce que là, on n'a toujours pas de réponse.
Et oui, c'est ça. La discussion continue. En fait, oui, on s'est toujours posé la question de l'âge des anneaux de Saturne. Et donc, il y avait une théorie qui nous disait que si les anneaux étaient légers, finalement, ils étaient peu massifs. Donc, ils étaient plus sensibles à la pollution des météorites qui viennent dessus depuis des milliards et des milliards d'années. Et comme les anneaux sont propres, s'ils sont propres, ça veut dire qu'ils sont jeunes parce qu'ils sont peu pollués. Mais il y a une théorie, il y a un modèle assez complexe derrière. Et puis, il y a quand même un grand questionnement encore sur le flux de météorites qui arrivent. Donc, voilà, il y a des tas de débats là-dessus, puisque les chiffres, donc il y a des nouvelles mesures des flux de météorites qui arrivent sur Saturne. Ces chiffres ne sont pas publiés encore, ils n'ont pas été référés, revus par des collègues. Donc, quand on lit régulièrement « les anneaux de Saturne sont jeunes », ça repose quand même sur un modèle complexe et sur des données qui sont pas complètement claires encore. Après, il y a les tenants des anneaux vieux, dont je fais peut-être partie, mais j'ai comme une intuition. Bon, parce que quand on suppose que les anneaux sont jeunes, en fait, le problème ne s'arrête pas là, c'est qu'il faut comprendre comment ils se sont formés. Et là, les problèmes se reposent, en fait. Quand ils sont vieux, c'est facile de former des anneaux au moment où la planète se forme, massifs, voilà, ils vont évoluer, ils vont s'étaler autour de la planète, et en s'échappant de Saturne, ils vont former des petits satellites, et puis sinon, ils vont tomber sur la planète. Et donc, avec cette théorie des anneaux vieux, finalement, on explique la masse actuelle, parce que quand on fait des modèles, la masse actuelle des anneaux est la masse vers laquelle ils doivent tendre au bout de 4 milliards et demi d'années. Donc, il n'y a pas besoin d'autre chose. Et en plus, ils aident à former les petits satellites, etc. Donc, c'est une théorie qui est finalement relativement simple. Et qui, voilà. Mais bon, il y a ce problème de la pollution. Hein, c'est comme sur Terre. On a aussi nos problèmes de pollution à Saturne. Et donc, il faut essayer de résoudre cette question. C'est-à-dire, est-ce que vraiment les anneaux devraient être si pollué, est-ce qu'on ne s'est pas trompé quelque part? Donc le débat reste actif, même si on a beaucoup de collègues qui ont envie que les anneaux soient jeunes.
En 13 ans quand même, avec Cassini, on a appris quelque chose qu'on n'avait jamais vu, c'est une dynamique dans les anneaux, des lunes qui font leur place, qui s'éloignent, qui se rapprochent. On a vraiment compris les anneaux, vous le diriez, après Cassini?
On a mieux compris ce qui se passe à petite échelle de temps, donc... on se pose des questions sur les grandes échelles de temps, l'âge des anneaux, mais finalement, en approchant, on a mieux compris ce qu'on appelle la microdynamique, la microphysique. Donc, toutes ces petites turbulences qui arrivent et on voit mieux comment les particules interagissent entre elles, comment elles vont réagir à la perturbation d'un petit satellite. Donc, ces histoires de famille entre anneaux et satellites, autant au niveau dynamique qu'au niveau chimique, on les comprend beaucoup mieux.
Il faut une autre mission pour aller les voir, ces grains de
près. Bien sûr. Pas avec moi, mais je serai un peu vieille quand même.
Il y en a dans les tuyaux à la NASA ou ailleurs des missions qui retourneraient vers Saturne?
Bon, il y a des missions qui sont prévues vers Titan, on espère vers Encelade, parce que bon, quand on fait le chemin, on ne va pas y aller pour un objet, on va essayer de faire
d'autres... Encelade qui est une lune.
Oui, une lune Brancelade, c'est la lune des geysers, voilà, de la vie possible en sous-surface. Donc il y a évidemment plein de choses intéressantes, voilà. Mais on a aussi envie de retourner vers Uranus et Neptune, donc
il va falloir choisir.
Il y a du boulot.
Il y a du boulot.
Merci beaucoup, Cécile Ferrari. Vous êtes planétologue à l'Institut de physique du globe de Paris. Axel, à demain.
À demain, Mathieu.